Pour plusieurs raisons, je n'ai pas non plus très bien dormi ni hier soir ni avant-hier soir. La pratique que je suis en train d'essayer de faire pour pouvoir être présent avec vous, c'est de pratiquer ce que nous allons apprendre ensemble aujourd'hui. Hier, dans ma famille qui était ici, Lily nous a fait un excellent résumé de la pratique que nous faisons. Et ça se trouve dans les handouts, dans le cartable qu'on vous a remis. Alors si j'imagine que toutes les familles ont fait le même exercice, c'est-à-dire ont passé en travers de tous les documents qu'on avait. Et sinon, donnez-vous la chance de les regarder parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail dedans et c'est un excellent condensé. Je suis impressionné par les outils qui ont été développés et qui nous sont disponibles. Et je vais les faire traduire. Mais je vais demander à Lily de me les passer pour que je les fasse traduire, pour pouvoir les partager aussi avec les autres sanghas avec lesquels nous travaillons. Notre pratique. La première chose que nous voulons pratiquer, c'est l'arrêt. Est-ce que ça rentre dans les ailes? On va faire comme si c'était un L. Alors, l'arrêt, c'est la première pratique et c'est la pratique la plus importante que nous devons, pas que nous devons. Je m'excuse pour le vocabulaire. Lorsque j'utilise le mot devoir, ce n'est pas une obligation. Alors donc, la première pratique que nous voulons faire, que nous nous donnons, que nous choisissons, que nous faisons, que nous adoptons, que nous nous donnons, et finalement, c'est un cadeau qu'on se donne. Alors, la première pratique qu'on veut se donner, c'est la pratique de l'arrêt. Parce que vous voyez, on vient de prendre un exemple. Je n'ai pas bien pu dormir hier. C'est une idée. Une idée qui peut nous amener beaucoup plus loin. Pourquoi j'ai mal dormi? Parce que j'ai pensé à telle personne. C'est cette même personne qui m'a empêché de dormir encore la nuit d'avant. Ah, etc. Et puis là, ça. Et on se perd dans ses pensées. Alors, ça peut être des personnes qui nous reviennent de notre passé et qui reviennent nous hanter aujourd'hui. Ça peut être des événements futurs que nous redoutons et qui nous font peur et qu'on redoute. Et ça peut être aussi des choses qui sont dans le présent et qui nous emportent. Alors donc, hier, dans notre groupe, Lung a posé une question et je ne sais pas, je me souviens plus de la question, mais la réponse était que notre pratique, c'est la pratique de l'arrêt afin de revenir et de rester et de demeurer dans l'instant. Lorsque nous parlons d'arrêter, qu'est-ce que nous arrêtons et comment nous le faisons? Beaucoup. Je suis en train de lire un livre très intéressant, Le cerveau du Bouddha. Et nous sommes nés avec cette merveilleuse capacité de planifier, de penser, de projeter, d'élaborer des scénarios. Et toutes ces choses-là qui nous ont été données, toutes ces capacités que nous avons acquises ont été des cadeaux pour nous, ont été des armes pour nous et ont assuré notre survie. Parce que si nous n'avions pas eu ces capacités, il y aurait longtemps qu'on ne serait plus ici et peut-être que notre race se serait déjà éteinte. Et c'est grâce à ces capacités que nous avons de planifier, de pensée, tout ça, qui nous ont préservés comme espèce et qui font qu'on est encore ici, bien vivant, même si des fois on a encore de la difficulté à dormir. Et cette difficulté à dormir peut venir de beaucoup de... peuvent être causées par beaucoup de facteurs. Et la pratique que nous pouvons faire dans ce cas-là, c'est revenir. Revenir dans l'ici et le maintenant. Revenir pour arrêter ces pensées qui nous amènent partout. Revenir pour être dans ces instants que Julie nous a suggéré, nous a fait pratiquer avec la méditation guidée qu'elle nous a fait ce matin. Je retourne pour pouvoir revenir et être en contact avec toutes les choses merveilleuses qui sont présentes ici et maintenant. Lorsque nous sommes pris dans nos pensées, que ce soit dans le passé ou dans le futur, en général, ce sont des choses qui nous hantent et qu'on redoute. Et c'est ça qui est surprenant. Les choses que nous n'aimons pas, les choses qu'on voudrait qu'ils soient autrement, les choses qui nous tiennent éveillés, non pas éveillés, réveillés, les choses qui nous empêchent de dormir, elles sont celles qui reviennent tout le temps. Et on parle de ces spirales, et on parle encore de ce disque brisé, la même traque qui revient et qui revient et qui revient, et c'est ça qui nous empêche de dormir. Et la méditation de ce matin, c'est revenons à l'instant présent, reprenons cette manette que nous avons, qui s'appelle un remote control, et sur cette manette, il y a 10 chiffres, et on peut composer n'importe quel chiffre pour pouvoir changer de canal. Et dans ces canaux, il y a des canaux de violence, il y a des canaux de désespoir, il y a des canaux de... mais il y a aussi des canaux de bonheur et de joie. Et ces canaux, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne dans notre situation, dans notre vie, sont toujours disponibles et peuvent être là, à notre disposition. Et comment est-ce que nous le faisons? Avec la pratique de la respiration consciente. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire et je me calme. J'expire et je souris. Et c'est ce que nous avons fait ce matin avec la méditation guidée. Lorsque nous pratiquons la respiration consciente, nous mettons notre attention, toute notre attention, à notre respiration. J'inspire et je sais que j'inspire. J'inspire et je suis conscient du début de mon inspiration. Je suis conscient de l'air qui pénètre dans mes poumons. Je suis conscient que mes poumons s'élargissent et je fais consciemment l'effort de pousser cette respiration dans mon ventre pour pouvoir augmenter encore ma capacité de recevoir encore plus d'énergie et de nourriture de l'environnement. Et ça s'appelle la respiration consciente, la respiration abdominale. Lorsque j'ai rempli mes poumons et lorsque j'ai rempli mon estomac, je ne peux plus inspirer et je dois expirer. Je dessouffle, je dégonfle mon estomac, je dégonfle mes poumons. Je mets mon attention avec l'air qui part de mon estomac, qui s'en va dans mes poumons et qui sort par mes narines. Et je suis cet air qui est en moi et qui rejoint l'air de la chambre, l'air autour de moi. Je concentre mon attention sur ma respiration et je pratique l'arrêt de mes pensées. N'importe quoi qui est en train de me sortir de l'instant présent, les situations que je redoute, les chagrins que j'ai, les blessures, tout ça, et qui m'entraînent, et qui me permettent, et qui ne me laissent pas en paix. Je leur demande de me donner un peu de répit. Laisse-moi me restaurer. Laisse-moi revenir à moi. Laisse-moi acquérir un peu de cette paix, de cette joie. Laisse-moi me renforcer. Et je te promets que je vais revenir pour m'occuper de toi. Et donc, mais si nous ne faisons pas cet exercice, nous pouvons risquer d'y laisser notre peau. Et c'est comme ça que les maladies mentales se passent, parce qu'on ne peut pas s'arrêter. La pratique d'arrêt est une pratique de survie essentielle. Et si nous ne pouvons pas la faire, c'est la première chose que nous voulons nous donner lorsque nous venons à une retraite de pleine conscience. Donc la première pratique, l'arrêt. Et l'arrêt, c'est dans toutes les activités que nous faisons. Je nous ai parlé de la respiration consciente. La respiration consciente est cet outil merveilleux qui nous est donné pour nous permettre de pouvoir revenir. Et c'est une chose qui est portable, qui est transportable et que nous avons toujours avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Et la fin de nos jours risque d'arriver très tôt si nous ne faisons pas attention à notre santé, et pouvoir dormir une bonne nuit de sommeil est une condition pour notre santé. Ce livre dont je vous ai parlé parle non seulement de la santé physique, parce qu'on le sait, après une soirée mouvementée où on ne dort pas, on ne se sent pas bien le lendemain et on ne se sent pas bien le surlendemain. Et ça prend seulement 4 ou 5 jours pour que ça finisse en dépression et en burn-out. C'est quoi le mot français pour burn-out? Alors, je ne sais pas qui d'entre nous ont eu la chance de passer par cette expérience. Et je ne le souhaite à personne. Et c'est la raison pourquoi je suis dans cette pratique. Et c'est cette raison aussi qui fait que j'y ai survécu. Et c'est cette vraie même pratique aussi qui me dit que si je ne fais pas attention, parce que la pleine conscience, c'est aussi la pleine conscience de ce qui se passe dans le présent moment, mais c'est aussi la pleine conscience de ce qui peut arriver. Nous sommes pleinement conscients de ce qui est en train de se passer maintenant. Nous sommes conscients de ce qui cause cet instant. Et nous sommes aussi conscients de ce que cet instant peut amener. Et c'est ce que j'essaie de pratiquer. Je suis très content, heureux d'avoir cette pratique. Je suis très heureux de nous avoir ici comme communauté pour pratiquer ensemble. Parce que lorsque vous êtes ici avec moi, ça me permet de pouvoir me concentrer sur la pratique. Parce que je sais que nous sommes ici ensemble seulement pour ça, pour pratiquer le miracle de la pleine conscience. Le miracle de la pleine conscience qui commence par revenir à l'instant. It is okay. It is okay, c'est un mantra. C'est un mantra qui... It is okay, c'est un mantra que j'essaie de me donner pour pouvoir être mieux arrêté. En général, pourquoi est-ce qu'on est on n'est pas là? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans l'instant présent? C'est parce que it is not okay. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. parce qu'on voudrait que les choses soient différentes. Alors pour moi, mon mantra pour pouvoir arrêter, c'est « It's OK ». Même si ce n'est pas OK, c'est OK. Et pourquoi? Même si ce n'est pas OK, c'est OK, parce que c'est comme ça. J'ai passé 60 ans de ma vie à vouloir que les choses autour de moi soient comme je le souhaite. Je voudrais essayer de passer mes prochaines années. Je ne sais pas combien il va m'en rester. À accepter ce que j'ai autour de moi. Quand j'étais plus jeune, à 14 ans, je voulais être Elvis Presley. Je vous le jure. Je m'habillais comme lui. J'avais même les cheveux avec la brillantine. Les mouches qui se posaient glissaient par-dessus. Et j'ai pris des leçons de guitare. Pas très fameux comme Elvis. Un petit chinois de 5 pieds 2 qui veut être Elvis. Et il y a beaucoup de choses que j'ai voulu être dans ma vie. Je voulais aussi marier la plus belle fille. Et elle ne doit pas seulement être belle, elle doit être aussi intelligente. Elle doit aussi être compétente, talentueuse, bonne chanteuse, bonne ménagère, bonne mère de famille, bonne cuisinière. Et je l'ai trouvée. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas voulu de moi. C'est ça, j'avais mis le critère intelligence dedans. Et parce que... j'aurais dû enlever ce critère, j'aurais pu avoir tout le reste. Et donc, la pratique que je voudrais faire, et je dis bien que je voudrais. Vous voyez, je continue de vouloir. Et ça me ramène toujours à la base de notre pratique. Au début de l'année, cette année, nous avons commencé en septembre à étudier les 4 établissements de la pleine conscience qui sont le fondement de notre pratique, le fondement de la pratique de la méditation selon l'enseignement du Bouddha. Et j'avais commencé la première leçon, les obstacles à la pratique. Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas pratiquer la pleine conscience comme c'est enseigné? Même si on sait que c'est quelque chose qui est merveilleux et qui va nous sauver de tous nos problèmes et afflictions et douleurs, et etc. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Vous le savez. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais il y a cette foutue chose, ces foutues choses qui sont toujours sur notre chemin et qui nous empêchent de pratiquer. Et le Bouddha en a identifié 5. Les 5 obstacles à la pratique de la pleine conscience. Devinez, c'est quoi? Pardon? Les distractions, absolument, oui. Mais pourquoi est-ce que vous êtes distraite? Ok, importante. C'est quoi qui est important? Vous avez utilisé le mot « plus » ou « moins ». Et c'est toujours cette chose-là qui fait que lorsqu'on est dans une place, il y a toujours une autre place qui est plus attrayante ou qui est moins souffrante. Il y a la télévision qui est peut-être plus intéressante que ce qu'on est en train de faire. Donc c'est toujours le plus et le moins. What about it's okay? Hier, on a parlé du trafic. Et la question, c'était est-ce qu'on peut être libre dans le trafic? Oui. Est-ce qu'on peut être libre en dehors du trafic? Aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas? Parce que lorsqu'on est dans le trafic, on voudrait être en dehors du trafic. Et lorsqu'on n'est plus dans le trafic, avez-vous déjà été dans une place où il n'y avait aucun trafic? Rien. Vous étiez en panne d'essence, avec un pneu crevé. Il n'y a pas de trafic. Pouvez-vous être libre? Je ne pense pas. Parce que là, vous serez aux prises avec quelque chose, vous savez quoi? L'angoisse et la peur. Et hier, dans mon groupe, il y avait une question très, très intéressante. Vous parlez de trafic, mais c'était quoi la question, Lily? Alors la question c'était, est-ce qu'on peut être libre en dehors de la famille? Est-ce qu'on peut être libre dans la famille? Et ça revient à la même chose. Et j'ai trouvé ça tellement génial. Et je me suis dit que peut-être qu'on ne devrait plus limiter nos discussions en famille, parce que ce sont des visions et ce sont des wisdom, de la sagesse qui mérite d'être partagée. Et c'est pour ça que j'en parle maintenant aujourd'hui. Plus, moins. Je souhaiterais tellement que être un peu plus grand. Je voudrais tellement que mes enfants aient plus de succès dans leurs études. Je voudrais, et je n'arrête pas de vouloir. Et quand je ne peux pas avoir ce que je veux, j'essaie de le faire, de faire tout ce que je peux afin de pouvoir l'avoir. Et malheureusement, souvent, je parviens à le faire. Il y a peu de choses que j'ai beaucoup voulu que je n'ai pas eues et que je n'ai pas accomplies. Pour m'apercevoir que ce n'est pas vraiment ce que je veux. Et je recontinue et je recommence. Et ça s'appelle la roue, le cycle infernal des naissances et des morts. Et ça s'appelle le samsara. Y a-t-il quelque chose dans vos vies que vous avez voulu et que vous n'avez pas eu? Pensez-y. Il y a peu de choses qu'on a voulu, qu'on n'a pas eu et reçu. Ben c'est vrai, moi, Elvis, c'est jamais. Alors j'ai dû faire un deuil pour ça. Mais les autres choses, oui. Je voulais être un ingénieur. Et je le suis devenu. J'étais content. Je n'ai même pas été content. Parce que je n'ai pas eu le temps d'être content. Parce que je ne me suis pas donné le temps d'être content et de savourer cette chose que je voulais. Parce que rendu à la quatrième année, en fait, j'ai fait mes 4 ans en 3 ans et demi. Alors, arrivé à la troisième année, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand, c'est-à-dire quand je vais graduer. Il va falloir que je travaille. Alors là, même avant de graduer, j'ai commencé à faire mes démarches pour trouver un emploi. Et quand on est en démarche d'emploi, on est concentré sur cette chose-là, puis c'est juste ça qui est important. Alors le diplôme, c'est une chose acquise. D'habitude, on le sait bien longtemps avant la date. Alors quand la date est arrivée, on savait, c'est pas grave. Mais là, quand est-ce que je vais avoir cette mardi de job? Et puis dans le temps, c'était pas drôle. Vous êtes un immigré. Il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et puis là, vous le voulez. Il y a... OK. Combien d'immigrants il y a ici? Lorsqu'on a un drôle de nom. Mintran? Mintran, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Lorsqu'on a les cheveux rasés. Lorsqu'on a une peau un peu trop colorée, on vit des choses que jamais vous ne pourrez comprendre. Donc vous l'avez connu, vous savez pourquoi? Parce que dans notre génération, les femmes ont eu les mêmes problèmes. La discrimination. Mais pourquoi j'amène ce sujet? Un autre sujet pour ne pas dormir. Mais vous voyez, vous avez 22 ans. Vous êtes brillant. Vous graduez comme deuxième d'une promotion de 200 étudiants de toute une université. Votre vie a été un succès. Vous réussissiez tout ce que vous voulez. Puis là, vous envoyez des CV. Puis tout ce qu'on trouve, c'est des lettres standards. Et puis là, ils mettent votre nom par-dessus. Nous avons reçu merci de votre intérêt. J'en ai un tas comme ça. Quand on vous voit en entrevue, parce qu'on est obligé de le faire, parce qu'il y avait quelques organisations qui disent il faut pour, etc. Vous rentrez, puis vous regardez celui qui vous interviewe, puis vous savez que vous ne l'aurez pas. Ça n'a rien à voir avec la façon dont vous répondez. Ensuite de ça, vous parvenez de peine et de misère à avoir la pire job que personne ne voulait. Vous acceptez la moitié du salaire, puis vous rentrez, puis vous le faites quand même. Puis là, vous vous démenez pour pouvoir prouver. Et puis là, vous touchez à ce qu'on appelle les femmes connaissent bien ça, glass ceiling. Tous les processus, toutes les lois, tous les règlements sont là pour une équité. Mais ce ne sont que des mots et des papiers. Et on se tape dessus et ça fait mal. Et on revient chez soi et on ne peut plus dormir. On est fâché. On est en maudit. On prend un coup. On rentre. On est encore sous cette colère, mais on a perdu notre raisonnement et on frappe notre femme. Et c'est comme ça que les problèmes mentaux arrivent. Si seulement, à moins que, on puisse s'arrêter pour dire que it's okay, because this is it. S'attendre à avoir un bureau, un monde, une organisation où il n'y a pas de discrimination, je l'ai toujours voulu. Je l'ai toujours souhaité. Et pendant mon emploi avec les forces canadiennes, j'étais le champion pour la diversité. Et on m'invitait pour donner des discours, pour parler de l'équité. Les sous-ministres étaient là, les sous-ministres adjoints étaient là. Est-ce que ça va se régler? Est-ce que c'est OK? Je ne pense pas que ça soit OK. Mais la question devient, qu'est-ce que je veux payer pour ça? Est-ce que je veux donner ma vie pour ça? Est-ce que ça en vaut la peine? Ma tête me dit, il n'y a rien qui vaut ta santé. Il n'y a rien qui vaut ta santé mentale. Il n'y a rien qui vaille la peine que tu ne puisses pas dormir ce soir. C'est ma tête qui me le dit. Mais je ne peux quand même pas dormir. Et c'est pour ça que je dois pratiquer. Et que je dois encore pratiquer. Et que je dois encore me pousser. Et que je dois encore me dire, il n'y a rien de plus important que ta propre santé physique et mentale. Il n'y a personne qui va s'occuper de toi si tu ne sais pas t'occuper de toi toi-même. Et la façon de le faire, c'est de retourner puis d'arrêter. D'arrêter tous ces désirs. Ces désirs de changer le monde. Ces désirs que le monde change. Parce qu'il ne changera jamais. Ou bien même s'il change là, on voudra encore que d'autres choses changent. Breathing in. Breathing out. J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. Je reviens dans l'instant présent. Cet instant unique et merveilleux. Et c'est ça la méditation que nous avons fait ce matin. Les choses ne sont pas ce qu'on voudrait qu'elles soient. Cette chose-là n'est pas ce qu'on voudrait qu'elle soit. Cette personne-là pourrait être différente de ce qu'elle est. Pourquoi elle ne l'est pas? Elle peut l'être. Elle va peut-être le devenir. Mais est-ce que notre manque de sommeil va l'aider à devenir ce que nous voulons qu'elle soit? Est-ce que le fait que je ne vais pas me coucher avant d'aller rencontrer un sous-ministre pour lui parler d'un cas d'iniquité illégale, si je peux dormir ce soir, je pourrais peut-être mieux le faire demain que de me choquer aujourd'hui et d'arriver avec la moitié ou le quart de mes capacités, de mes possibilités pour faire un changement. Et je vous le jure que j'ai déjà été dans ces situations, que j'ai perdu les pédales parce que je n'ai pas su me préparer, c'est-à-dire que je n'ai pas su m'occuper de moi avant d'y aller. J'inspire, je me calme, j'expire, je souris. Tout ce qui est en train de se passer, ici et maintenant, les personnes qui sont dans ma vie aujourd'hui, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est la chose la plus importante. Les personnes qui sont les plus importantes de ma vie, dans ma vie, et c'est ça que je dois faire. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tolstoï. Et c'est la première histoire que notre maître nous a enseignée lorsqu'il nous a enseigné le miracle de la pleine conscience. Et c'est un livre merveilleux. Et c'est un manuel de méditation. Et c'est le livre que je nous recommande de lire. Un livre classique écrit dans les années 60. Le miracle de la pleine conscience. Quelle est la chose la plus importante à faire? La chose que tu es en train de faire. Qui est la personne la plus importante, la personne qui est en avant de toi? Quoi le meilleur temps pour faire les choses? Maintenant. Alors, si maintenant, il est 1h du matin et que le lendemain, on a une retraite et qu'on a un discours à donner, qu'est-ce qu'on fait? On dort. On se repose. Quand on peut. Si on peut. Si on peut bien pratiquer. Alors je vous avoue, je ne suis pas un bon pratiquant. Parce que hier, je n'ai pas pu dormir. Alors ce n'est pas parce que je dis des choses que ce sont des choses que je fais, que je peux faire. Je dis ce que je sais qui peut tous nous aider. Je dis parce que je sais que je ne peux pas le faire, mais que je dois le faire. Et c'est pour ça que je me le répète. Et c'est mon souhait, le plus sincère et le plus profond, que vous soyez mieux que moi, que vous puissiez mieux le faire. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne pouvez pas le faire, vous continuerez d'avoir beaucoup de problèmes. C'est tellement évident. La solution est tellement simple. Et pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. Je retourne à l'instant présent, cet instant unique et merveilleux. Il y a-t-il un instant plus merveilleux que celui-ci? De pouvoir être assis. On n'est pas encore malade, on peut encore respirer, je peux encore me tenir sur mes pieds, je peux faire les 10 mouvements. Qu'est-ce que je veux de plus? Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de vouloir? Pourquoi je n'arrête pas de vouloir autre chose que les choses qui sont comme elles sont? Pourquoi je ne veux pas voir qu'elles sont parfaites comme elles sont? Pourquoi je ne peux pas voir que ça pourrait être beaucoup pire que ça l'est là? Vous voulez parler de pire? Je peux vous raconter des histoires. Je reviens d'un voyage de 4 mois au Vietnam. Et j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses. Et c'est mon souhait que vous puissiez un jour aussi le voir. Avez-vous entendu parler d'un truc qui s'appelle agent orange? Savez-vous de quoi ont l'air les bébés qui sont nés quand ils sont affectés par l'agent orange? Il y a un village de monde comme ça que les autorités cachent parce qu'ils ne veulent pas montrer au monde ces misères. Vous voyez un enfant comme ça, vous allez trouver que it's okay. Que n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez être. Qu'il y a des millions de personnes dans ce monde qui voudraient juste avoir tous les problèmes que vous avez avec les conditions que nous avons. Mais je sais que ces mêmes personnes-là Ils disent ça, on les met dans notre situation. Demain, elles seront plus contentes. Ils voudront encore plus autre chose. Je sais que si j'avais eu cette fille que je voulais tant, la fille qui était intelligente, elle en aurait voulu une autre. Plus belle, plus intelligente, moins ci, plus ça. Oh non, je suis tannée de tes cheveux, je veux une blonde. Oh, plus la blonde. Non, ok. Alors, je ne sais pas. Ce que je suis en train juste de vous partager, c'est que la souffrance existe. Yeah, quelle nouvelle. Première noble vérité. La raison pourquoi je suis ici. Parce que je souffre. La souffrance existe. Peut-être que si nous nous pendons, ça n'existera plus. D'une solution. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est ici. Et la raison pourquoi nous sommes ici, c'est pour essayer de nous donner une pratique qui nous permette de pouvoir nous en sortir. Qui nous permet de pouvoir... Le mot anglais, c'est « cope », composer. Et si nous pouvons composer, c'est déjà pas trop mal. Et il y a un mot qui pourrait peut-être un peu mieux décrire cela, c'est s'en contenter. S'en contenter. Ce n'est pas correct, mais c'est correct quand même. Live with it. Be happy with it. Vous avez raison. Ce sont des nuances et des différents dosages. Mais persistez à vouloir que les conditions et que les choses et que les mondes et que les gens autour de nous changent. C'est illusoire. Parce que ça peut arriver et ça va arriver. Mais le problème, c'est que si nous ne pouvons pas être contents, si nous ne pouvons pas nous contenter de ce qu'il y a ici et maintenant, il y a très peu de chances qu'on se contente de ce qu'il va y avoir demain, même si c'est ce qu'on désire. Et je ne sais pas, mais j'ai passé beaucoup trop de temps à vouloir recevoir, réussir, pour ne jamais être content. Et tout ce que ça a fait, c'est que ça a alimenté mon désir. Et que j'en désirais toujours plus. Et que ça ne pourrait pas s'appeler désir si ce n'est pas ce que nous n'avons pas. Et malheureusement, plus on reçoit, plus on réussit, et davantage on veut. Et c'est pour ça qu'on dit que les désirs sont illimités, mais que les moyens pour les satisfaire sont limités. Et que c'est pour ça que les désirs sont une voie certaine vers la souffrance. Et il y a peu de souffrances que j'ai vues et que j'ai eues dans ma vie que je n'ai pas rattachées à cette réalité et cette vérité de ne pas être content de ce qu'il y a là, ici et maintenant, et d'y voir mon bonheur et ma fortune et mon privilège de l'avoir. J'en ai bavé. J'en ai eu dans ma vie, de toutes les couleurs. Et si c'est ça, et c'est peut-être ça qui m'aide maintenant à pouvoir être plus facilement contenté que beaucoup d'autres. Et que je sais que si j'ai pu être un peu plus facile à contenter que je l'ai déjà été, c'est grâce à cette pratique. Et je l'ai mis à l'essai pendant mon voyage au Vietnam aussi. J'ai guidé des tours avec des touristes, pas des touristes, des amis qui venaient des États-Unis. J'ai accompagné mes nièces et neveux qui sont venus de l'Europe et aussi des États-Unis. Et je les promenais partout. Et j'observais. comment ils réagissaient. Et la leçon que j'ai retirée de cela, c'est que les choses ne sont jamais ce qu'on croit qu'elles sont. It is not what it looks like. It is not what we think it is. Et Thay l'a dit sous une autre forme. Are you sure? Je m'excuse pour l'anglais. Ok, je vais retraduire. Are you sure? Êtes-vous sûr? Mais c'est quoi tous les autres mantras importants que j'avais dit? Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Les choses ne sont pas ce qu'on croit qu'elles sont. Les choses ne peuvent pas être, ou bien nous, anyway, vous comprenez le truc. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'on était à la même place, dans le même autobus, on a pris le même repas. Et en soirée, on s'est assis, puis chacun a vu la journée d'une façon différente. Naturellement, moi, j'étais tout « wow ». As-tu vu ci, as-tu vu ça? Puis ce serveur. J'étais là, pourquoi j'ai pas vu ça? Et je vous le jure, j'étais avec le même monde, j'étais dans la même place, même restaurant, même table, même serveuse, même nourriture. Et tous ceux qui me demandent comment je me suis senti pendant les 4 mois, je me suis dit, couldn't have been better. Ça n'aurait pas pu être mieux que c'était. J'étais toujours heureux. J'étais toujours pleinement content de tout ce qui se passait. Même si les 30 autres personnes ont toutes trouvé des choses à redire. Et c'est là la pratique, et c'est là que je suis content, et c'est là que je me suis aperçu des résultats de ma pratique. Et vous savez ce que je pratique depuis 20 ans, 25 ans? Le ciel est bleu. Même quand le ciel n'est pas bleu, le ciel est quand même bleu. Et vous savez comment on peut le voir? Quand on prend l'avion, il est en train de faire une grosse tempête de neige, mais si l'avion décide de partir, si le capitaine décide que c'est assez sécuritaire pour partir, qu'il part, 5 minutes après, le ciel est bleu. Le ciel est bleu, je suis si heureux. Quand le ciel n'est pas bleu, je suis quand même heureux parce que je sais que le ciel est bleu. Et là, on peut me dire, mais t'es fou. Regarde. Et je sais qu'il est bleu. Et le ciel est toujours bleu. Il peut y avoir des nuages. Mais c'est quoi des nuages? C'est quoi un nuage? Pardon? C'est une accumulation d'eau en suspension. Ce sont des gouttelettes d'eau. Rien de plus. C'est du vent, c'est de l'air, c'est du vide. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. C'est vide. Un nuage, c'est vide. Ça ne pèse rien. Ça a l'air gros, ça a l'air méchant, c'est noir, c'est cette couleur. Essayez de vous poser dessus, il y a juste les petits anges qui peuvent le faire. Mais vous, si vous voulez vous y mettre, vous allez tomber. Parce que c'est vide, il n'y a rien là. Et c'est la même chose pour nos pensées. Avez-vous vu une pensée? De quoi ça a l'air? C'est quoi une pensée? C'est quoi une émotion? C'est un nuage dans le ciel bleu. C'est vide. Il n'y a rien là. Pourtant, ça peut nous tuer. Nous, on a, ok, 120, moi j'ai 120 livres. Ok, 125 depuis que je suis revenu du Vietnam. Oui. Et on se laisse entraîner par des choses qui ont 0 livre. Et ça nous mène comme ça. C'est pas comme ça. Alors je ne sais pas, quand je me parle comme ça et que je me vois, Je suis triste. Je suis déçu. Des choses tellement simples à comprendre. Des choses qui sont si faciles à dire et à décrire. Pourquoi je ne peux pas être libre? Pourquoi je suis encore pris avec mes anneaux? Pourquoi est-ce que je suis tiraillé de toutes les bords et de côtés? Quand est-ce que je vais comprendre que ce ne sont que des nuages? Il n'y a rien là. Et le terme technique que Lily a utilisé hier, les formations mentales. Ce ne sont que des formations mentales. Pourquoi en faire tout un plat? Pourquoi s'empêcher de dormir? Pourquoi se rendre malade? Pourquoi vouloir détester? Pourquoi vouloir tuer? Et ce sont ça qui commencent des guerres. Des milliers et des millions de personnes ont été tuées par des idées et à cause d'idées. J'inspire, je me calme, j'expire, je souris. Je m'établis dans l'instant présent, instant unique et merveilleux. Respire, souris, la vie est belle. Même si elle n'est pas belle, elle est belle. Pourquoi nous voulons nous arrêter? Qui a lu les 5 entraînements à la pleine conscience? Les 5 entraînements à la pleine conscience, comme son nom l'indique, c'est pour nous permettre de pratiquer la pleine conscience. Pour nous pratiquer, et en particulier, le 4e entraînement à la pleine conscience. Écoute profonde et parole aimante. En fait, je vous ai parlé du 4e parce que je voulais vous parler de la colère. Lorsqu'on est pris dans l'énergie de la colère, c'est très difficile de revenir à l'instant. C'est très difficile de savoir que c'est un nuage et de savoir qu'il est en train de cacher un beau ciel bleu. Alors, il y a un enseignement, les 5 façons de mettre fin à la colère. Dans notre vie de tous les jours, il y a des personnes merveilleuses qui nous entourent et qu'on veut tellement être en leur compagnie. Et c'est la 5e façon, ça c'est la 5e. On est entouré de personnes qui des fois ont un langage peu aimant. Et si on s'accroche à leurs paroles, on va être pris dans le nuage. Et l'enseignement, c'est que si nous sommes en compagnie d'une personne qui a un langage peu aimant, on regarde ses actions. On regarde qui connaît ce sutra. Le karma se définit par 3 actions. La parole, les actions du corps et l'esprit. Si nous rencontrons une personne qui n'a pas les paroles aimantes, on regarde ses actions et on regarde son esprit. Et si son esprit et ses actions sont belles, qu'on s'en nourrisse et qu'on en soit heureux. Si une personne a des actions réprimandables, nous regardons ses paroles, nous écoutons ses paroles, nous regardons son esprit. Et si ces choses-là sont bien, on sera content. Alors l'idée, c'est juste de ne pas s'attarder et de ne pas se limiter à cette chose-là que cette personne n'a pas comme on voudrait qu'elle l'ait. Si une personne n'est ni aimable dans ses paroles, si une personne n'est ni aimable dans ses pensées, dans ses idées, si cette personne-là en plus est violente, que les 3 karmas, que les 3 actions sont détestables, On la tue, on la prend, on la fusille. C'est ça que nous faisons. C'est ça notre système judiciaire. On s'en débarrasse. On les fusille. On les injecte. On les met dans une chambre à gaz. Et on pense qu'on a fini. Mais on n'a pas fini parce que cette chose réapparaît. Ce ne sont pas les exécutions qui vont régler ce monde. Ce ne sont pas les guerres. Les Américains ont voulu se débarrasser du communisme. Ils ont mis je ne sais pas combien de bombes au Vietnam. 45 ans encore après, il y a encore des bombes non exposées là. Est-ce que ça a enrayé le communisme? Non. Ils sont là encore plus forts qu'avant. Et c'est la même chose dans nos vies. Penser qu'on peut se débarrasser de quelqu'un ou de quelque chose, c'est une autre illusion. Parce qu'elle va réapparaître. C'est malheureux, mais c'est ça. L'enseignement du Bouddha, c'est cette personne-là qui est si détestable, qui ne sait pas parler comme du monde, qui a des actions violentes, qui a un esprit empoisonné. Cette personne-là est la personne qui mérite le plus notre amour. Parce que ce n'est qu'en l'embrassant dans nos bras qu'on peut la transformer. On peut lui donner une chance de pouvoir s'en sortir. Et c'est ça le système de justice que nous appelons... C'est quoi que les Premières Nations font? Je ne sais pas, un cercle où ils le remettent en société pour pouvoir... Mais... Alors ce sont les quatre façons de gérer notre colère. Et le Bouddha en identifie cinq. Et la cinquième, c'est que dans notre vie, autour de nous, il y a des personnes qui ont un langage merveilleux, qui ont un cœur vaste comme l'océan et qui ont des très belles manières. Et lorsqu'on est en présence de ces êtres-là, c'est de pouvoir le reconnaître pour pouvoir en profiter. Et le Bouddha prend l'exemple d'un beau lac frais. Et nous sommes dans le soleil. Et ce lac est là et se présente. Que ce serait bête, mais ce n'est pas le langage du Bouddha, il n'utilise pas ce mot-là. Je ne sais pas comment ça se dit dans son langage. De ne pas plonger pour pouvoir se rafraîchir et profiter de cette fraîcheur pour calmer des feux de notre colère et de notre condition. Le problème qu'on a, c'est que ces êtres peuvent exister. Ces êtres sont des fois tout proches de nous. Et on ne peut pas les voir. Ça prend les yeux de Bouddha pour pouvoir reconnaître un Bouddha. Mais il y a beaucoup de Bouddhas et de Bodhisattvas autour de nous. Mais si nous sommes... C'est quoi le mot que vous avez utilisé? Distrait. Si on est enflammé, si on n'est pas enflammé, brûlé, si on est dans le feu, consumé par le désir, si on est consumé par la haine et la colère, si on est tout, par toutes ces choses-là, comment est-ce qu'on peut être présent pour pouvoir reconnaître et voir un Bouddha? Et hier, encore là dans mon groupe, il y a quelqu'un qui a dit une phrase merveilleuse. N'attends pas que les choses soient comme tu le veux pour sourire. Souris. Et c'est exactement l'enseignement de mon maître aussi. Mais il a expliqué d'une façon très scientifique. Lorsque tu souris, ça fait quelque chose dans ton cerveau. Et ton cerveau va se mettre à se faire quelque chose. Et tout d'un coup, tu te sens mieux. C'est cette sagesse que nous pouvons aussi emprunter. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Les choses sont ce qu'elles sont, ne sont pas ce que nous voulons qu'elles soient. C'est correct. sourions. Et ça a un effet sur notre cerveau. Notre cerveau va finir par le voir que c'est OK. Restons fâchés. Ça ne va qu'alimenter la colère. Et qu'est-ce que la colère fait lorsqu'elle est alimentée? Elle grandit. Elle grandit et elle prend toute la place. Et si tout notre esprit est occupé par la colère, quelle place peut-il rester pour la joie et le bonheur? Comment pouvons-nous envoyer ce sourire et cette pensée à notre esprit? Alors même si ce n'est pas OK, c'est OK. Même s'il fait tempête, le ciel est bleu. On a ce choix, toujours. Est-ce qu'on veut le prendre? Il est là pour nous. Le choix est toujours là pour nous. Veux-tu être heureux? Ou veux-tu souffrir? Qu'est-ce que tu choisis? Pour moi, le choix est évident. Et je veux pouvoir le choisir à chaque instant. Et je me répète, je veux pouvoir. Je veux pouvoir. Je n'ai jamais dit que je sais ce que je fais. Je veux pouvoir. Et c'est ça qui s'appelle une pratique. Parce que je ne l'ai pas. Le travail pour m'approcher de cela. Le travail pour m'améliorer dans ça. Et je le fais en pratiquant l'arrêt. J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. Et des fois, j'oublie. Et quand j'oublie, je suis pris dans mes trucs. Et c'est pour ça que je pratique la cloche de la pleine conscience qui me permet de pouvoir m'arrêter. Au son de la cloche, le Bouddha apparaît. Il me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, excusez-moi. Yeah, hello! Il revient. Alors donc, on a la chance aujourd'hui, demain, de pouvoir continuer de pratiquer avec la cloche. Et cette cloche merveilleuse va nous accompagner dans notre vie de tous les jours. Mon ordinateur, vous voyez, il sonne à toutes les heures. Et une chance que je l'ai, et je le mets toujours, pour pouvoir me rappeler de m'arrêter. M'arrêter pour ne pas me laisser emporter dans mes pensées. Arrêter pour revenir à l'instant, pour me donner une chance de pouvoir respirer, pour pouvoir me calmer, pour pouvoir soulager mon corps et mon esprit, pour leur donner un break, pour le restaurer, pour me donner la chance d'être un peu mieux que je peux l'être, pour pouvoir dealer avec ce qui est là. It is not okay, but it is okay. Does not mean, ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire. Mais j'accepte les choses comme elles sont pour pouvoir travailler sur ça. Parce que il y a une autre chose. L'impermanence. Les choses qui sont, quelles qu'elles soient, ont cette propriété d'être impermanente. Et ça aussi, c'est une loi inéluctable. On ne peut pas s'en échapper. Aujourd'hui, je vais bien. C'est sûr qu'un jour, je vais aller moins bien. J'ai déjà eu 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 62. J'ai déjà été plus beau que je le suis. Je le suis moins, puis je le serai encore moins. And it's okay. Vouloir rester, vouloir avoir l'apparence d'une personne de 20 ans quand on a 60, on peut le vouloir. Puis il y a beaucoup de personnes qui le veulent. Et puis là, qui se mettent sur des régimes, puis des chirurgies, puis tout ça. Ça change quoi? Alors, à 60 ans, c'est correct. Puis à 90 ans, ça va être aussi correct. Parce que c'est ça. C'est correct parce que c'est ça. It's not okay, but it's okay. It's okay because this is it. And this is it, c'est aussi un autre mantra. This is it, c'est très important. C'est ce que c'est. C'est ça que c'est ça. C'est ça, bon français, c'est ça que c'est ça. C'est ça qui est ça. Okay. Donc c'est ça qui est ça. Et c'est ça qui est ça, et c'est correct, et c'est bien correct à part ça. Et pourquoi c'est ça qui est ça? Parce qu'on a appris aussi une autre chose qui s'appelle l'interdépendance et l'inter-être. Et c'est ça qui est ça parce que ça, c'est ça. Et parce que ça, c'est ça qui n'est pas ça, puis c'est ça qui n'est pas ça, puis c'est ça qui n'est plus ça. C'est de voir que tout dépend de tout ce qu'il y a autour et de tout ce qu'il y a d'autre. Pourquoi est-ce que j'ai vu un voleur au Vietnam? Ben, ceux qu'ils traitent de voleurs, une belle personne, ou bien une personne qui mérite notre charité. L'un des exemples qui a beaucoup frustré mes amis touristes, c'est de s'apercevoir qu'ils ont payé 3 fois plus que ceux que les Vietnamiens payent pour la même chose. Et ça me fait plaisir de payer 5 fois plus cher que ceux qui sont là. Parce que je sais que je gagne 10 fois plus cher. Et je sais que la même chose coûte 20 fois plus cher ici. Donc pourquoi? C'est quoi le problème? Ces personnes-là ont besoin d'argent pour survivre. J'ai parlé avec un enfant de 10 ans. Beau. Puis chaque jour, quand je vais m'asseoir sur le bord du chemin pour manger mon bol de soupe, il vient puis il me présente ses billets de loterie. Je n'achète pas de billets de loterie, mais à chaque fois, je lui donne 10 billets. Puis là, il insiste pour que je prenne les 10 billets parce qu'il ne veut pas juste prendre l'argent sans que... Il dit, je vends des billets, je ne reçois pas... Comment ça s'appelle? 10 ans. Puis là, quand je me suis pris d'amitié avec, je lui demande, pourquoi tu ne vas pas à l'école? Il dit, ben là, il faut que tu demandes à mes parents. J'étais voir leurs parents. Ses parents. Vous savez ce qu'ils me disent? J'ai besoin du salaire qu'il fait à chaque jour pour nourrir cette famille. 10 ans. La gratuité des frais de scolarité dans les universités. Yeah, let's go. Ils n'iront jamais à l'université parce que 10 ans, ils sont en train de vendre des billets de loterie. La même chose. On peut être très content et je suis très heureux et content de pouvoir acheter quelque chose de cet enfant. Et ça me donne beaucoup plus de joie qu'il peut en avoir à recevoir. Ça ne me dérange absolument pas de payer plus cher pour les choses que j'achète là. Et ça me donne beaucoup de joie de pouvoir le faire. Et je regarde mes amis qui étaient là dans l'autobus et qui se choquent et qui s'alimentent dans leur choquerie. C'est un peuple de voleurs. Pourquoi ils ont rendu voleurs? Puis c'est même pas du vol. C'est ça, puis ce n'est pas ça. C'est ça, oui. Mais l'autre chose qui est que pourquoi est-ce qu'on a ce complexe que c'est contre nous et envers nous? Il m'a eu, il m'a trompé, il m'a extorqué. C'est toujours moi, moi, moi. Pourquoi lui puis pas moi? Pourquoi lui il l'a eu pour 2 piastres puis moi j'ai dû payer 20 piastres? Lui, moi. Mais pour moi, c'est quoi cette logique? Parce que l'autre l'a eu pour ce prix, il faut que je l'aie pour ce prix-là. Alors que moi, je peux payer 5 fois, 10 fois, 20 fois plus. Alors je ne sais pas, les règles du libre marché, c'est quoi? J'ai quelque chose à vendre. Combien tu peux payer pour? T'es content? Tu le prends. T'es pas content? Fais-le pas. Tu me demandes un prix, je te donne un prix. Tu ne veux pas? Barquine-moi. Puis ben, si tu me bargaines, puis que c'est raisonnable, peut-être que je vais accepter. Et pour moi, c'est juste du fair market, et puis du fair... C'est juste ça, une relation. J'ai quelque chose à offrir, qu'est-ce que tu peux me donner pour? Et c'est un échange équitable, un gentleman agreement entre les deux. Et c'est comme ça que je le vois. Je ne suis pas obligé de l'acheter. Je ne suis pas obligé de payer le prix qu'on me demande. Je paye ce que je trouve que je peux payer et qui est équitable pour ça. Pour dire que même situation, deux personnes, deux réactions. Et je peux vous dire que le reste du truc en autobus, j'étais très bien parce que je n'étais pas pris dans cette chose-là. Puis il était déjà en train de s'alimenter. As-tu vu sa face? Puis ils l'en mettaient, puis ils l'en mettaient, puis ils l'en mettaient. Puis je vous jure, à un moment donné, ils sont devenus vraiment fâchés. Et puis on parle peut-être de 2 dollars. Ils ont payé 5000 piastres pour être là pendant une semaine. Ça veut dire presque 1000 piastres par jour. Puis ils sont devenus choqués, fâchés parce qu'il y a 20 dollars. C'est quoi la logique? Oui. J'en pense de quoi? Je ne donne pas d'avis. Ou j'en donne seulement quand je suis payé. Non, c'était un voyage éducatif pour moi. Et j'ai agi comme guide pour ces choses-là, pour ces groupes. Alors donc, je ne faisais que qu'observer. Mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que les choses ne sont jamais ce que nous pensons qu'elles sont. Qu'il y a toujours 10 000 façons de voir la même chose, le même truc. Qu'il y a toujours au moins 54 facettes d'un diamant et que dépendamment de la facette où on la regarde, on la verra d'une façon très différente. Et dans le temps, le Bouddha l'a décrit dans un sutra qui s'appelle l'éléphant. L'éléphant dans un village d'aveugles et il se battait pour dire, pour moi, un éléphant, c'est, je ne sais pas, décrit la queue, puis l'autre. Non, t'es con, c'est pas ça, je décris la trompe. Puis un autre, c'est le même Christie d'éléphant. Et il se battait pour qui avait raison. C'est ça le sutra. Are you sure? Il y a une chose que je suis sûr. Je sais que je ne sais jamais. Don't be too sure. Never. Parmi les 10 000 façons de regarder les choses, il y en a peut-être 10 qui sont malheureuses. Et on a le talent de les trouver. Mais les 9999 autres facettes qui sont tellement belles, on refuse de les voir. C'est la réalité, c'est prouvé scientifiquement. Vous savez pourquoi? À cause de nos Christie gènes qui nous ont préservés. On a été entraînés à toujours prévoir et prédire les pires scénarios pour pouvoir survivre au cas où ça arrive. Et à cause de ça, on est tellement bon à identifier les choses qui ne vont pas. Et on est incapable de voir les choses qui vont bien. Alors il y a 20 ans, quand j'ai commencé à enseigner, ma femme m'a enseigné une chose que je vous ai partagée aussi. Ça s'appelle la tache d'encre. Mon maître commençait à faire ses calligraphies. Et quand il était venu au Canada, je lui ai acheté un crayon, des trucs pour faire sa calligraphie. Et ma femme lui a demandé un tableau spécial pour elle. Et Thay a été très généreux et lui a fait. Vous savez, c'est quoi? Une tache d'encre. Juste ça. Je n'ai jamais compris jusqu'à ce qu'un jour elle me dise Tianhui, c'est ma femme qui m'appelle, pas Tianhui, mais elle m'appelle par mon chéri. Sais-tu pour qui je l'ai fait? Pour la personne que j'aime le plus au monde, puis sais-tu c'est qui? Ça, c'est toi, c'est pour te dire comment tu es. Et elle m'a dit, c'est quoi ton problème? Tu veux savoir? Regarde cette chose, puis dis-moi ce que tu vois. Puis là, je dis, c'est un tableau niaiseux avec une tache d'encre. Tu vois? C'est comme ça que tu es. tu n'es pas capable de voir autre chose que cette page noire sur toute une feuille blanche. Et je vous le dis, c'est aussi gros que ça, avec une page. Demandez-le à n'importe qui. C'est ça qu'ils vont voir. On a cette capacité à ne voir que des problèmes. Comme c'est triste. J'ai suivi des cours de conduite d'hiver. Qui a pris des cours de conduite d'hiver? Conduite d'hiver. Non, non. Un vrai cours de conduite d'hiver. Là, c'est sur une piste, une des pistes, je ne sais pas, à Blainville. Puis là, ils mettent une glace par-dessus, puis là, avec des poteaux, puis là, vous rentrez dedans, puis vous essayez de sortir de ça. Et à la fin du cours, ils vous disent juste, c'est très simple. N'essayez pas de regarder là où vous allez, vous voulez aller, puis vous allez y aller. Pour dire que vous savez ce que le monde regarde lorsqu'ils sont pris dans des pirouettes? Ils regardent les poteaux. Tout un champ, ok? Puis on regarde le poteau, on va arriver dans le poteau. Mais pourquoi on ne peut pas regarder ailleurs? Mais non, non, ce n'est pas les faces que je vois quand c'est vrai. Et je sais que lorsque je vais, non, si il m'arrive encore de conduire sur ces routes en hiver, ce que je ne me souhaite plus, et que je serai pris dans le truc, et qu'il y a un poteau, je sais que je vais le regarder, puis je sais que je vais rentrer encore dedans. Parce que je suis ce que je suis. Pas très intelligent. Et je sais que je ne sais pas grand-chose. Et si je pouvais vous la chanter. Merci beaucoup. J'espère que ce n'était pas trop déprimant.